Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de la semaine, vous nous parlez des États baltes. Les trois États baltes sont membres de l'OTAN. Que pense-t-on sur place de Donald Trump? Comment considère-t-il la présence de l'enclave russe de Kaliningrad dont vous nous parliez hier?
Les médias baltes se demandent à quelle sauce leurs petits pays vont être mangés dans le grand jeu de partage de l'Europe qu'ils redoutent entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est ce qu'écrit Imbi Paju sur le site Project Syndicate. Cette cinéaste et écrivaine née en Estonie vit et travaille en Finlande, tout comme la grande romancière Sofia Oksanen, dont elle est proche, et que nous avons eu la chance de recevoir au matin de France Culture. Imbi Paju a notamment mis en scène une adaptation de Purge, le livre le plus connu de Sofia Oksanen. Elle est l'auteur d'un travail documentaire sorti en 2005 sur les violences infligées aux femmes par les soviétiques dans les pays baltes, qui s'appelle Memories Denied. Mais si l'on veut avoir une idée du traumatisme consécutif à leur annexion par l'Union soviétique, il faut absolument voir le film magique de Marty Helde, Crosswind, la croisée des vents. Une réussite esthétique inégalée, un film composé de tableaux vivants immobiles en noir et blanc, explorés par une caméra pleine d'empathie et de délicatesse. Pour comprendre l'état d'esprit dans lequel les petites républiques baltes abordent la période, il faut garder en mémoire le sentiment de fragilité et de vulnérabilité qui leur vient de leur histoire récente. Comme l'écrit de son côté Gregory Pfeiffer dans Foreign Affairs, la mémoire de l'Union soviétique, de l'invasion soviétique de 1940, puis hitlérienne de juin 41, suivie d'une nouvelle occupation soviétique en 44 avec son cortège de massacres et de déportations, hante encore la mémoire des Baltes. L'occupant nazi a exterminé la population juive, Vilnius était appelé la Jérusalem du Nord, et les soviétiques ont torturé de manière abominable leurs opposants, comme cela d'ailleurs est exposé dans Purge, le livre de Sofia Oksanen dont je parlais tout à l'heure. Ils ont déporté 250 000 Baltes dans les camps du Goulag. Nous n'avons pas oublié le pacte Ribbentrop-Molotov signé à l'été 1939 entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, écrit ainsi Imbé Paju. Sa propre grand-mère a été déportée au fin fond de l'Union soviétique. Nous nous souvenons aussi des conséquences morales, des violences commises contre nos peuples. Des compromissions, des collaborations, des dénonciations, ce type de régime provoque la dégradation morale des individus, car ce sont les plus corrompus qui paraissent alors les plus avisés. C'est eux qui survivent. Les personnes décentes, elles, périssent. La confiance entre les gens disparaît. La société éclate. Le pouvoir peut alors faire tout ce qu'il veut. Il ne rencontre plus en face de lui aucune force susceptible de lui opposer une résistance quelconque. Or, à nouveau, écrit-elle, nous assistons sidérés à l'achat des consciences, aux manœuvres politiques pour tenter d'apaiser une Russie menaçante. Et Imbi Paju de réfléchir à partir de Freud aux capacités de résistance de l'individu face à la violence totalitaire. Elle rappelle l'existence d'un courant freudien important en Russie dans les premiers jours des révolutions de 1917, symbolisé par Tatiana Rosenthal. Cette neurologue et psychanalyste se suicida en 1921 lorsque l'œuvre de Freud fit l'objet d'attaques, puis la psychanalyse fut interdite en URSS. Une génération plus tard, écrit-elle, l'Estonie fit à son tour l'expérience de la terreur. Les soviétiques s'acharnèrent à extirper tout ce qui rappelait aux Baltes leur lien avec la culture européenne. Ils détruisirent 26 millions de livres, mettant le feu à beaucoup de bibliothèques privées. Or, écrit Imbi Paju, je persiste à croire que la culture peut mettre un frein à la barbarie en cultivant la mémoire. Mes films et mes livres, poursuit-elle, sont autant de tentatives pour mettre en lumière les cadres de pensée sous-jacents à des perversions sociales telles que les dénonciations de voisins ou les crimes de masse. Or, poursuit-elle, ces forces sont en train de se réveiller. La banalité du mal, bien isolée par Hannah Arendt, rôde toujours parmi nous, prête à ressurgir. Je n'ai pas confiance, conclut-elle. La liberté n'est plus garantie. La culture ne suffit plus. Il faut une société civile désireuse de se défendre et capable de le faire. C'est dans cet état d'esprit que nous affrontons la période pleine de risques pour nous qu'a ouverte la victoire de Donald Trump.
Mais qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, a bien pu provoquer le réveil de cette inquiétude chez nos amis baltes, Brice?
La guerre de Géorgie en 2008, écrit Emilia Punziute-Galois du Syrie, avait inquiété déjà les Baltes. Mais la crise ukrainienne entamée en 2014 les a carrément affolés. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Barack Obama était venu la même année sur place à Tallinn, capitale de l'Estonie, pour rassurer les Baltes quant au sérieux de la garantie américaine sur leur indépendance. Mais le scénario de l'annexion de la Crimée par la Russie a réveillé dans ces pays de terribles souvenirs. Car leur annexion à eux avait obéi au même scénario. Moscou avait invoqué un danger planant sur sa propre sécurité et les liens supposés historiques avec ces pays pour les envahir. De pseudo-élections avaient été organisées à la hâte, un parlement fantôme convoqué pour réclamer l'annexion à la Grande Russie. Or, à nouveau, les plus hautes autorités russes ont recommencé à présenter les pays baltes comme historiquement russes. La récente réhabilitation par Poutine du pacte Ribbentrop-Molotov, cette alliance de circonstances entre Allemagne nazie et Union soviétique, devant des historiens en novembre 2014, paraît là encore de mauvais augure.